Voilà, nous sommes encore dans une série de prédications. La série, j'ai intitulé la série Nous prêchons Christ crucifié. Et donc, c'est une série de messages sur la croix de Christ. Et peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur la croix? On a déjà tout vu. Écoutez, on n'a pas tout vu. Et ça prendra l'éternité vraiment pour comprendre et tout voir. Parce que pour l'instant, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé dans le ciel avant que Jésus vienne. Et puis deuxièmement, on ne sait pas tout ce que nous avons, tout ce que nous allons recevoir à cause de la croix lorsque nous serons dans la gloire. Alors déjà, il y a toute cette partie-là, on n'a aucune notion, aucune compréhension, peut-être même pas la capacité de comprendre. Mais là, nous allons, ce matin, nous allons nous concentrer sur cinq métaphores du Christ qui annoncent la croix de Christ. Les métaphores, c'est-à-dire, c'est des images qui expriment une vérité. Je cherchais une métaphore dans ma tête. Je me rappelle, en tant que gamin, il arrivait que je sois appelé un âne. Si je suis appelé un âne, c'est une métaphore. C'est pas que je ressemble à un âne, ça veut pas dire. Mais ça veut dire que ce qui est caractéristique de l'âne, c'était pour l'instant là, en tous les cas. Après, je vais pas développer plus loin, mais voilà. Je vous laisse penser ce que vous voulez penser. Ce sont des images qui sont utilisées pour communiquer une vérité. Voyons voir plusieurs. Je vais d'abord les citer, puis ensuite on les prendra une par une. Je prends uniquement celles qui font référence à la croix. Il y en a une qui sort de la bouche de Jean-Baptiste où il dit, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Il a dit, c'est un agneau. Ça c'est dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 2, Jésus dit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Il parle de lui comme un temple, il dit je suis un temple. C'est une image, mais il est en train de dire quelque chose. Quand il dit détruisez ce temple et dans trois jours je le rebâtirai. Et ça c'est dans Jean chapitre 2. Ensuite, dans Jean chapitre 3, il se compare et il se dit je suis le serpent d'airain. Il dit à Nicodème, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et là encore, mais il est en train de dire quelque chose sur la croix. Dans Jean chapitre 10, il dit ce qui a été relevé tout à l'heure dans une prière, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Là encore une fois, il dit, je suis berger. Mais il est en train de nous dire quelque chose par rapport à la croix. Et dans Jean 12, c'est l'image du grain de blé. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là aussi, il est en train de dire quelque chose. Quand il se compare, et quand il dit, je suis un grain de blé. Et donc, vous notez que tous ces cinq métaphores sont tirées de l'évangile de Jean. Et vous savez certainement que le but de l'évangile de Jean, c'est que nous croyons que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, nous ayons la vie éternelle. C'est dans Jean chapitre 20, verset 31, il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Et donc, ça rentre dans ce contexte-là. Et peut-être, si vous avez une petite notion de l'évangile de Jean, et vous voyez ça, vous savez déjà que, déjà à partir du verset, du chapitre 13, même 12, déjà, c'est la croix. Le sujet principal, c'est la croix. Tout va vers la croix. Et ça, sur 21 chapitres, c'est la moitié du livre. Et même si la moitié du livre porte sur la dernière semaine de Christ sur la terre, de son ministère, Mais en fait, vous avez vu qu'on est commencé au chapitre 1. Donc, depuis tout le long de l'évangile, la croix est devant et dans les pensées de Christ. S'il pense à cela, il est en train de, les gens sont en train de penser, je veux être guéri, je veux être ceci, je veux être soulagé, je veux être ce, je veux être. Mais lui, il est en train de penser à la croix. Et ça ressort constamment. Nous allons prendre ces métaphores une par une afin de saisir et prendre un sens de la croix, ce que la croix représentait pour lui et à quoi il pensait. Donc dans les trois premières, on a comme le sentiment que Jésus est victime, hein, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui est immolé, il est le temple qui est détruit, il est le serpent qui est suspendu sur une perche, et on a un peu le sentiment qu'il subit quelque chose. Mais lorsque vous prenez, quand il dit « je suis le bon berger, que je donne ma vie pour mes brebis », là, c'est actif. Hein? Et quand il dit « je suis le grain de blé, et je suis prêt à être sacrifié, enterré, afin de porter du fruit », là, c'est lui. Hein? On voit qu'il n'est pas en train de subir, mais il est en train d'agir. Hein? C'est sa volonté. Donc, c'est pas, Jésus n'a pas seulement subi, comme Isaac, par exemple, a subi, était la victime du sacrifice de son père. Mais Jésus, c'était sa pensée. Hein, c'est lui qui voulait se sacrifier pour le père. Et non pas Abraham, c'était le père qui sacrifie le fils pour montrer combien il aime Dieu. Mais dans le cas de Christ, c'est Christ lui-même qui dit « Je me sacrifie pour montrer combien j'aime le Père. » Commençons par Jean chapitre 1. Donc, si vous voulez, regardez Jean chapitre 1. Et par deux fois dans ce chapitre, il parle de Jésus comme l'agneau de Dieu. Hein, déjà au verset 29, ça se commence. Il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste est en train de dire, et lui, il est né avant Jésus. Il est né 6 mois avant Jésus. Hein, donc, et pourtant, il dit, Jésus était avant moi. Et là, tout d'un coup, ça sort, c'est en train de dire, mais ce Jésus, il était avant moi, il était ailleurs. Moi, j'ai commencé dans le sein de ma mère, Élisabeth. Mais il dit, mais Jésus, lui, il était déjà avant, hein, même si à un certain moment il a pris un corps, mais il était déjà, et il est en train de souligner sa divinité. Et c'est lui qui voit, qui était envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, et selon la prophétie d'Ésaïe, de Malachie, je veux dire, Malachie, il dit, c'est lui qui vient préparer le chemin du Seigneur, et quand cette prophétie est donnée par Malachie, c'est l'Éternel, il s'agit de l'Éternel. Hein, donc Jésus, cette divinité du Seigneur, elle est là. Et Jean-Baptiste, vous savez, son message, c'était un message de repentance. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le Seigneur arrive. Repentez-vous, redressez votre vie, mettez de l'ordre dans votre vie. Repentez-vous. Et même scellez cette décision en vous faisant baptiser. Donc Jean a baptisé du baptême, un baptême de repentance. C'était une manière de sceller cette décision. Il dit, voilà, je m'engage publiquement devant tout le monde. Je dis, voilà, moi, je me repens et je vis une autre vie. C'est un message de repentance, mais vous savez, la repentance, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas un sacrifice expiatoire pour payer le péché, la repentance, c'est... Et alors, je peux me repentir, mais mes péchés, je les ai toujours. Hein? On peut se trouver devant le juge et dire, monsieur le juge, je regrette, je vous promets, je recommence plus, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il dit, bon, après que vous aurez payé à la société, ensuite vous pouvez vivre une autre vie. Il faut que ça soit payé. Il faut un prix, il faut qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait un prix qui soit payé pour expier le péché vis-à-vis de la société et dans la justice, mais par rapport à Dieu, et bien, mais il faut le payer comme Dieu le demande. Hein, ce n'est pas à nous de lui proposer, écoute, je te paye comme ça. Non, c'est ce que lui veut. Et lui, c'est toujours un sacrifice sanglant, expiatoire. C'est ça le message de l'Ancien Testament. Hein. Si je comprends le message de l'Ancien Testament, c'était le seule manière d'obtenir le pardon des péchés, c'est un sacrifice. Et quand on disait « agneau de Dieu » à des Juifs, hein, c'est Jean s'adressait aux Juifs, quand on disait « agneau », eh bien, eux, tout de suite, ils pensent le sacrifice, ils pensent à l'agneau de l'Égypte, là, quand il fallait les maisons qui voulaient protéger leur premier-né, devait prendre un agneau sans défaut, sans tache, et prendre son sang, et puis oindre les poteaux de la porte d'entrée et le linteau de la porte pour protéger le premier-né. Eux, tout de suite, quand on dit agneau, ça venait tout de suite sacrifice expiatoire, sauver les vies. Et quand Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », et bien sûr, les pensées sont allées dans ce sens-là. Et donc, Jean pouvait dire « Repentez-vous », mais en même temps, il pensait, il dit « Mais je vous ai déjà dit, hein, il y en a un qui vient après moi, qui est supérieur à moi, et lui, c'est le sacrifice. Donc, vous pouvez vous repentir, hein, parce que sinon, un repentance sans sacrifice, c'est une bonne intention, c'est l'expression de bonne intention, mais ça ne change rien pour le passé. Ce qui a été fait est fait. » Mais lorsque, si on parle de sacrifice, d'agneau qui est sacrifié, et alors il y a un sacrifice d'expiation pour les péchés, après là, on peut espérer, on dit, bon, je me repens, c'est pardonné, maintenant je peux partir avec un casier vierge. Et donc, Jean, quand il dit agneau de Dieu, ben, il est en train d'annoncer la mort de Christ. Il y a dans Matthieu chapitre 3, Jésus dit quelque chose qui peut, au premier abord, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce qu'on lit toujours ça assez rapidement, on dit, ah oui, je connais ça, le baptême de Christ, oui, je sais comment ça s'est passé. Mais regardez dans Matthieu chapitre 3, parce que Jésus vient à Jean et dit, écoute, je veux me faire baptiser. Il dit, oh, toi, moi te baptiser, mais tu es supérieur à moi, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Et alors, au verset 15, donc Matthieu 3, verset 15, Jésus lui dit, pour lui dire, écoute, non, Dieu, fais ce que tu as à faire. Je vais lire au verset 13. Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi? Et regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Donc Jean a compris quelque chose là. Je ne sais pas ce que vous avez compris. La question c'est, qui sont nous? Hein? Il dit, il est convenable que nous accomplissions. Qui sont nous? Est-ce qu'il est en train de dire, Jean, toi et moi? Mais ce qu'ils sont en train d'accomplir, c'est une grande œuvre. Et là, Jésus ne peut pas s'associer à un homme, même s'il est un prophète, un grand prophète, mais on ne peut pas associer Dieu à un homme. C'est impossible. Et lorsque vous pensez au détail, la partie que vous connaissez du baptême de Jean, de Jésus, eh bien, vous savez qu'il y a un moment quand Jésus est baptisé, et tout d'un coup, il y a la voix du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et vous vous souvenez aussi qu'il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur Christ comme une colombe. Entre parenthèses, quand il dit « comme une colombe », il ne dit pas « une colombe ». Il dit « comme une colombe ». Alors imaginez, vous avez déjà vu des pigeons ou quelque chose, comment ils atterrissent. Et comme un hélicoptère, hein, ils descendent. Ça descend doucement. Ils descendent. Et c'est. Maintenant, ça, maintenant je ne vais pas faire un cas. Continuez à dessiner une colombe, si vous voulez, pas de problème. Ce qui est important, c'est que c'est ce qu'ils ont vu est descendu doucement et sur Christ. Pour donner, et pendant que Jésus, la voix du ciel parlait. Et là, on voit la triunité. Hein, je vais employer le mot la trinité, mais la triunité. Et quand il. Et je pense, je propose que quand il dit nous, afin que nous accomplissions tout ce qui est juste, il est en train de nous. Parce que, comme on l'a déjà dit ici, le conseil divin, les trois personnes de la divinité, hein, la trinité, ont pris une décision. Le Père qui sacrifie le Fils qui se. C'est un sacrifice, et le Saint-Esprit qui fait son œuvre. Et ils ont fait ça ensemble. Et il dit, non, non, laisse. Fais ce qu'il y a à faire, parce que ça fait partie de notre plan. Et Jésus, là, Jean dit, tu es l'agneau de Dieu. Et Jésus est en train de dire, mais ça fait partie d'un plan que nous avons mis en place pour le salut des hommes. Tout est là. Et c'est très important pour nous de le comprendre. Et finalement, quand le Père dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, il dit, je vous donne ce que j'ai de plus précieux et je le donne en sacrifice pour vous. Et il accomplissait ainsi ce qui était juste. Ça me fait penser à ce verset dans Hébreux chapitre 9 qui dit, mais Jésus est venu. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voilà, pour ça, c'est ça, tout ça a été inclus dans « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et la Sainte Trinité qui est en train de dire « Nous avons mis un plan en place, et c'est ce qui est juste, c'est bien fait, j'approuve pleinement, c'est Jésus dit « Moi j'approuve, le Père il a dit j'approuve, le Saint-Esprit est descendu, tous sont là ». Il dit, c'est ce qui est juste, c'est le plan du salut pour les êtres humains. C'est une chose extraordinaire. Et ça, c'est le début, c'est le début du ministère de Christ, c'est le moment où on annonce, la première chose qu'on annonce, Jésus devient public. Ça commence déjà, il pense à la croix. Les autres n'y pensaient pas, mais Jésus pense à la croix. Le deuxième... La deuxième métaphore, c'est dans Jean chapitre 2, donc on peut aller dans Jean chapitre 2, et ça se trouve dans une situation où Jésus vient de chasser les vendeurs du temple et les changeurs de monnaie, il vient de les chasser tous, et ça n'a pas été trop bien apprécié, surtout par les responsables du temple, parce qu'ils ont quand même ils ont tiré un gain. Et alors, on vient le voir, on dit, mais écoute, par quel miracle est-ce que tu démontres que tu as le droit de faire ça? Puisque c'est pas avec notre autorisation que tu as eu ça, alors fais un miracle qui prouve que toi, tu as le droit de mettre les gens à la porte. Alors Jésus répond, Jean chapitre 2 et verset 19, Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Et c'est tout ce qu'ils ont entendu. Bien sûr, eux, ils ont pris la chose littéralement. Et pour eux, ils disent, bon, comment ? Ça a pris 38 ans pour Hérode de construire ce temple, magnifique et tout ça. Et toi, tu dis, démolissez ça, moi je le remonte en trois jours. Et... Oui, ça les a marqués quand même, parce que trois ans plus tard, au moment où on cherchait des raisons pour le mettre à mort, eh ben, c'est ressorti. Bon, c'est un peu sorti de travers, hein, un peu n'importe comment, mais c'est ressorti, ils avaient quand même un souvenir. Ça les a quand même marqués, hein, quand Jésus dit ça. C'était son intention. Et même les disciples n'avaient rien compris, mais il nous dit ici, au verset, je continue à lire, donc verset 20, dit les Juifs dirent, il a fallu 46 ans Ah, je disais 38 ans. 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Ce qu'ils n'ont pas compris. Eux, ils n'ont pas compris que c'était une métaphore. Ils ont pris ça littéralement. Verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc, ça a pris du temps. Tout le monde le comprend. Mais il l'a dit. Et il l'a dit parce qu'il le pensait. Il le pensait. Il pensait à quoi? Il a dit, ce corps, c'est un temple. Ce que vous voyez là, c'est la pierre, mais dedans, c'est le Dieu. Donc, il parle de sa divinité. Mais il a dit, détruisez le temple. Des fois, j'ai eu des discussions avec certains. Ils me disent, mais comment vous dites que Jésus, c'est Dieu? Dieu est mort sur la croix. Non, c'est pas Dieu. C'est le temple qui a été détruit, pas le Dieu du temple. Il dit, détruisez ce temple, mais 3 jours, je le relèverai. Il dit, moi, je me ressusciterai moi-même au bout de 3 jours. Il le dit. Ça veut dire qu'il le sait. C'est qu'il le pense. C'est ce qu'il a dans sa pensée tout le temps. Alors qu'il est en train de marcher parmi les hommes, et eux, ils pensent à tout sauf cela, même ses disciples. Lui, il pensait à cela pendant tout son ministère. C'est dans des circonstances similaires que les Juifs sont venus lui dire « Écoute, fais-nous un miracle. » Et dans Matthieu chapitre 16, verset 4, il dit « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et là encore, dans une autre circonstance, il est en train de dire la même chose. Il prend l'image de Jonas et il dit, voilà, je mourrai pendant 3 jours et ensuite je ressusciterai. Et c'est deux fois qu'il apprend ça. On lui demande de faire un miracle ou un signe. Et les deux fois, il parle de sa mort et sa résurrection. Vous savez ce qu'on doit comprendre? C'est que pour lui, le plus grand signe pour nous et pour notre foi, c'est Christ est mort et il est ressuscité. N'allez pas chercher quelqu'un qui était paralysé et qui marche. N'allez pas chercher quelqu'un qui était mort et qui est ressuscité. N'allez pas chercher quelqu'un qui a marché sur l'eau. Cherchez celui qui est mort 3 jours. Et qui est ressuscité. C'est là, pour Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est le miracle des miracles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres miracles, mais celui-là, c'est le miracle des miracles qui confirme et qui prouve tout. Et nous devons nous souvenir de cela. Je souligne encore que c'est tout au début de son ministère. Là, quand il a chassé, parce que Jésus a chassé les gens du temple 2 fois. Une fois au début, une fois à la fin. Et là, c'est la première fois. Donc c'était déjà dans sa pensée, dans son ministère de 3 ans et demi, c'était déjà là. Je suggère même que dans le temple, quand il avait 12 ans, il dit il faut que je m'occupe des affaires de mon père, je pense qu'il y pensait déjà. Mais là, c'est pas très évident. Mais voilà. Donc Jésus dit, mon corps, c'est le temple, et Dieu demeure. Détruisez le temple, moi, je le relève, et puis, soit dit en passant, qu'il l'a relevé, c'est encore plus merveilleux qu'avant. C'est pas seulement il a reconstitué l'ancien, mais le corps ressuscité de Christ, c'était un corps d'une autre nature. Et c'est ce que nous aurons lorsque nous ressusciterons aussi. Parce que pour la terre, c'est le terrestre. Pour le ciel, c'est le céleste. Et il nous donnera le corps qui est adapté à la nouvelle existence. Quand même, Dieu a pensé à tout. Même si on avait fait un effort d'essayer d'inventer quelque chose, ça aurait été moins complet que ce que Dieu a préparé. Voilà, donc Jésus, l'agneau de Dieu, il annonce sa mort. Quand il dit « Détruisez ce temple, je rebâtirai », il annonce sa mort. Et ensuite, Jean chapitre 3, donc il est là en train de discuter avec Nicodème, c'est un pharisien, donc quelqu'un qui est déjà un érudit dans l'Ancien Testament. Il nous dit que c'est un chef des Juifs, donc c'est pas n'importe qui. Et Jésus est en train de discuter avec lui, Et au verset 14, il dit, parce que Nicodème, il a du mal à comprendre. Hein, Jésus est en train d'expliquer les choses simples, et puis Nicodème, il a tellement été formaté dans une autre direction qu'il a du mal à comprendre, même s'il fait un effort, il a du mal à comprendre. Et finalement, Jésus prend quelque chose de l'Ancien Testament, une métaphore, pour essayer de l'expliquer ce qui va se passer. Et au verset 14, il dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Pour nous, c'est clair, on sait, on comprend. Mais pour Nicodème, ce n'était pas si évident que ça. Mais Nicodème connaissait l'histoire du serpent ardent. Hein, quand les enfants d'Israël, ils étaient arrivés il y a un moment, ils ont dit « Oh, on en a assez de cette manne, et puis on tournait dans le désert, on n'est pas bien, ceci, je commence à... » Et ils commençaient à parler en mal de Dieu et de Moïse. Et alors, Dieu n'approuve pas cela, et Dieu le montre en envoyant des serpents venimeux, hein, des serpents ardents. Et je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça représente, mais il y en avait plein de partout, et pas moyen d'en échapper. Alors les gens, très vite, bien sûr, ils se sont mis à repentir. Hein. C'est comme, en tant que gamin, je faisais des bêtises, mais lorsque mon père arrivait avec la correction, après tout d'un coup, j'avais envie de me repentir, et j'avais des belles paroles et tout ça. Et eux, quand ils ont vu tous ces serpents, puis tout d'un coup, ils ont dit « Oh, on a mal parlé, pardonne-nous, Moïse, demande à Dieu de nous pardonner. » Tout d'un coup, ils sont devenus très spirituels. Mais cette fois-là, hein, contrairement à toutes les autres fois, Dieu avait retiré les jugements. Cette fois-là, il a dit « Non, non, je laisse les serpents, mais Moïse, tu élèves un serpent d'airain, de cuivre, que tu mettras sur une perche, et tu diras aux gens, de quand ils sont mordus, par ce serpent, hein, quand le venin est inséré dans le corps, il dit, quand tu vois que tu as été mordu par le serpent, eh bien, si tu te tournes vers ce serpent qui est au milieu du camp, sur cette perche, quand tu regarderas, tu seras sauvé. Maintenant, n'importe qui sait qu'un serpent d'airain là-bas n'a aucun effet sur ce que le poison fait dans le sang de mon pied. Hein. On sait qu'il y a aucun rapport. Le rapport, c'est le fait de croire à ce que Dieu a dit. Dieu a dit de le faire. C'est pas une question du serpent, c'est une question de croire en la parole. Et ceux qui ont regardé ont été préservés. Et Jésus dit, il dit, Nicodème, tu sais, tu as compris le principe là. Oui, j'ai compris, là, j'ai compris. Ils ont été sauvés parce qu'ils ont cru. Hein, Dieu a dit de regarder, ils ont regardé, peu importe où ils se trouvaient, et quand ils ont cru, ils étaient sauvés. Il dit, eh bien, exactement de la même manière, le Fils de l'homme, parlant de lui-même, il dit, lui aussi va être suspendu. Et celui qui croit qu'il a été mis là pour le péché des hommes, sera sauvé, aura la vie éternelle. C'est pas la croix de bois. J'ai déjà vu des gens agenouillés devant un crucifix, et puis certainement qu'ils ont pensé plein de belles choses. Mais c'est pas ça, c'est le Christ qu'il faut regarder. Le Christ crucifié. Et il dit, il faut, hein, il dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui est la vie éternelle. Hein, d'ici. Donc, s'il ne croit pas, il ne l'aura pas. Ce n'est pas parce qu'il y avait un serpent sur la perche, le serpent d'airain sur la perche, que tout le monde était sauvé. Non, c'est seulement ceux qui ont regardé à ce serpent qui ont été sauvés. Et il dit, de la même manière, il faut que le Fils de l'homme soit suspendu à une croix. Et pour les Juifs, c'était maudit celui qui est pendu. Hein, mais il est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. Hein, c'est ça le thème de Galates. Mais il dit, mais celui qui regarde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si ça fait 2000 ans, et la croix, elle n'est même pas là, hein, vous allez là-bas, vous n'allez pas trouver. Au Moyen-Âge, tout le monde avait des petits morceaux de la croix. Et quelqu'un a dit, il y avait tellement de morceaux de la croix que si on avait reconstitué, on aurait pu bâtir l'Arche Noé. Hein, C'est toutes ces églises qui avaient des petits bouts de la croix.
C'est, ça ne sert à rien.
Ces reliques
n'apportent rien.
Mais c'est le fait, par la foi, de regarder à Christ sur la croix. Lorsque dans votre esprit, vous voyez Christ sur la croix, et vous dites, mais il était là, c'est à cause de moi, de mon péché, c'est pour moi qu'il était là. Et quand on dit, et je veux que son sacrifice s'applique à moi, c'est à ce moment-là, cet instant-là, que tout d'un coup, vous recevez la vie. Et la morsure du péché dans votre vie, eh bien, elle est annulée. Et vous avez la vie. Jésus, l'agneau de Dieu, le sacrifice expiatoire. Jésus, le temple qui est détruit mais rebâti en 3 jours, c'est la croix. Le serpent d'airain suspendu et vers lequel il fallait se tourner pour avoir la vie sauve, eh bien c'est le Jésus sur la croix vers qui il faut se tourner par la foi pour avoir la vie éternelle. Jean chapitre 10, c'est ce beau chapitre, et il n'y a pas si longtemps, on a eu une série sur le psaume 23, donc on a beaucoup parlé de Jésus, le bon berger, donc je ne veux pas développer trop, mais vous savez, le thème quand même de Jean chapitre 10, et là où on est en train de lire, au verset 11, il dit « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Écoutez, vous lisez n'importe quelle histoire de berger, et il ne dira jamais « Je donne ma vie pour mes brebis ». Allez voir ceux qui se plaignent des loups qui sont là-bas dans le... Hein, mais il dit « Ah, moi, je me jette aux loups pour sauver les brebis ». Non, non, il ne dit pas ça. Ils se plaignent de ceux qui ont mis les loups, mais ils ne vont pas se jeter aux loups. Il y a quelque chose de particulier là. Il dit « Je suis le bon berger », mais quand il dit « Je donne ma vie pour les brebis », il dit « Oh, il pense à quoi ?» Ça, c'est, il y a quelque chose de pas normal là. Il est en train de dire quelque chose qu'on n'entend pas normalement. Et c'est fait pour. Il dit, moi, je suis un berger, j'ai des brebis, mais je donne ma vie pour les brebis, pour qu'elles soient sauves. Et à quel moment est-ce qu'il a donné sa vie ? Eh bien, il n'y a qu'un seul moment où il a donné sa vie, c'est sur la croix, à Golgotha, sur le mont du Calvaire. Et il dit même ici dans le chapitre 11, il dit, on ne va pas me tuer. Hein, verset 18, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Et c'est lui sur la croix, il ne va pas mourir parce qu'il a été crucifié. La croix ne tue pas. Hein. Les brigands, ils ne sont pas morts sur la croix. Ils les ont tués sur la croix. C'est un supplice, mais ça ne tue pas. Mais Jésus, sur la croix, a rendu son esprit. C'est lui qui a décidé l'instant de sa mort. Et même Pilate, vous vous souvenez, Pilate était étonné qu'il soit déjà mort. Il dit, ah bon ? Et il a dû aller se renseigner. Donc Jésus, il a dit, je donne ma vie. C'est moi, on ne me l'a pas prise. Et puis après, je fais valoir. Non, non, je donne ma vie. Vous savez, c'est un peu, il n'y a pas si longtemps, hein, on a entendu parler de ce gendarme Arnaud Beltram qui s'est substitué pour une personne prise en otage. Et il a payé de sa vie. Hein. La seule différence, c'est que lui, il n'avait pas l'intention de mourir quand il s'est substitué. Tandis que Christ avait le projet de mourir quand il s'est substitué pour nous. Lui n'avait pas à mourir, il n'avait aucune raison, il était sans péché, il n'avait pas à mourir, mais il s'est substitué à nous avec l'intention de mourir afin de nous donner la vie. Et j'arrive au dernier, et donc c'est Jésus qui, Jean chapitre 12, donc, c'est après avoir ressuscité Lazare. Et la résurrection de Lazare, ça a quand même provoqué, ça a même accéléré le complot qu'il y avait contre Jésus. Hein, parce que là, ils ont dit, oh, ça pue, là, maintenant. Pfiou. Tout le monde va vers lui. Hein, il a ressuscité un mort, qui était mort depuis 3 jours. Alors là, il faut qu'on l'arrête. Hein, ça a précipité, finalement, ça a précipité les choses pour que ça tombe juste à l'heure. Hein, que ce soit pendant la Pâque. Ce qu'il ne voulait pas, mais... parce que c'est Dieu qui décide de l'heure. Et même chapitre 12, verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Il dit, « C'est le moment, c'est le rendez-vous, c'est le moment précis, je l'attends depuis 3 ans et demi, on est arrivé. » Et après, il ajoute, cette image dit, « En vérité, verset 24, donc Jean 12, verset 24, il dit, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il dit 2 choses. C'est qu'il doit mourir pour porter du fruit, mais il est en train de dire aussi, s'il ne meurt pas, il restera tout seul. Bon, Jésus continuera. Hein. S'il n'était pas mort sur la croix, il serait remonté au ciel, il aurait pu remonter au ciel. Hein. Il était sans péché, il n'y avait pas de problème. Et il aurait pu continuer, mais il n'y aurait que lui. Mais il a dit, non, je vais mourir, parce que si je meurs, je peux produire du fruit. Et nous sommes le fruit de sa mort. Jésus annonçait sa crucifixion, et il dit, on est sur le point de le faire. Et vous savez... J'espère que par cela, on voit que vraiment Jésus était venu pour mourir. Hein. Nous naissons pour vivre et nous mourrons. Lui, il est venu pour mourir et il vit. Mais, vous savez, ou bien Jésus dit vrai, et donc c'est le seul moyen de salut, il ne faut pas aller chercher ailleurs, parce que s'il y avait moyen d'être sauvé par un autre moyen, il ne serait pas mort. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autres options. Donc, où Jésus dit vrai et le salut, c'est grâce à la croix, ou bien Jésus est un trompeur et il a payé les frais de sa tromperie. Il est mort pour rien. Ce qui n'est pas probable. S'il est mort, s'il est passé par là, c'est qu'il y croyait. Et avec toutes les promesses, tous les projets qu'il a fait, qu'il a annoncé, et tout s'est passé comme prévu, déjà annoncé par les prophètes, annoncé pendant sa vie, et tout, c'est que c'est le seul moyen de salut. Maintenant, le choix reste avec l'être humain, ou je l'accepte, ou je le refuse. Mais la chose est... Christ est mort pour le péché de chacun qui croit. Et bien sûr, sa parole agit dans nos cœurs, son esprit agit sur nous. Et puis, je saisis, je commence à comprendre. Je commence à comprendre, Seigneur. Je ne comprends pas tout, mais je commence à comprendre. Et bien, ça suffit pour recevoir. Dieu nous donne cette possibilité d'entendre, de croire, pas comprendre, mais de croire. Et la foi, le salut vient par la foi. C'est le seul moyen de salut, et heureusement, parce que ça nous met à la portée de tous. C'est à la portée, un enfant peut croire, un adolescent peut croire, une personne d'une autre culture peut croire. Déjà nous sommes des personnes d'une autre culture, parce que c'était la culture juive à l'origine. Donc nous, on est en dehors de la culture, mais on peut croire. Hein, ce message est là. Et si je le reçois, si je comprends que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, et je ne peux rien ajouter, ni rien enlever, tout a été fait, lui le savait, c'était son projet depuis le début. Hein, les anges, quand ils ont parlé aux bergers, ils ont dit, il vous est né un sauveur, qui est le Christ Seigneur. c'est pas un accident dans son ministère, les choses sont mal passées. Non, non, c'est exactement ce qui a été prévu. Et c'est arrivé au moment voulu. Et ça a eu l'effet voulu. Et ça a encore de l'effet. Et nous pouvons avoir des vies transformées. Et que le Seigneur nous aide, mais que chacun s'assure que vraiment, il n'est pas en train de regarder à un serpent sur une perche, il est en train de regarder au Christ, le Fils de Dieu, sur la croix, qui se sacrifie pour nous. On peut regarder, tous les deux, on regarde dans la même direction, mais on ne pense pas la même chose. Et c'est dommage d'être si près et d'être si loin. C'était un peu le problème des Juifs à l'époque des apôtres. Ils étaient là, tout était devant eux, les textes, ils les connaissaient, et puis, mais ils pensaient à un autre Messie. Et c'est important pour chacun de nous de nous assurer que le Jésus en qui j'ai mis ma confiance, c'est celui dont le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ira plus loin, écoutez-le lui seul. Et c'est lui qui reviendra nous prendre et prendra les siens, prendra pas les autres. Hein. Il y en a qui vont lui dire, mais Seigneur, je connais pas. Tu m'as déjà parlé, toi? Bah oui, j'ai dit Jésus. Combien de fois j'ai dit Jésus? J'ai crié, c'est Jésus. Je n'ai pas entendu. Je termine avec ça, mais je me rappelle la crèche à Saint-Denis, elle était dans la salle, un peu dans la salle, c'était une crèche à part. Et alors, si un bébé hurlait, la maman pouvait entendre. Vous savez, c'est jamais arrivé qu'il y a deux mamans qui se lèvent. Chacune connaît la voix de son enfant. N'allez pas dire à Jésus, moi, tu ne m'as pas entendu? Moi, je connais la voix de mes enfants, de mes brebis, j'entends pas les autres. Dans la crèche, là, il y a un bébé qui hurlait et une seule maman qui se levait. Et les autres, ils n'ont rien entendu. C'est-à-dire, ça, oui, on entend et puis on ne fait pas attention. Vous savez, Jésus dit, je connais mes brebis, elles entendent ma voix, et elles me suivent. La question, est-ce que je suis une brebis du Seigneur? Une vraie brebis du Seigneur, ou est-ce que seulement je le prétends? Et c'est la foi qui fait la différence. Nous allons nous arrêter là.